Les podcasts du blog de Marc Blanchard, expert en antivirus informatique.
Au sommaire, les antivirus Linux. En 1997, le virus Bliss a été le premier virus Linux, sous forme de proof of the concept, à démontrer que Linux pouvait être vulnérable. Depuis, des codes malicieux compilés en ELF, les exécutables Linux, en script, tels que des scripts shell ou PHP, viennent effectuer des tentatives d'infection contre les systèmes Linux. On s'aperçoit que la croissance des codes malicieux s'attaquant à Linux a été multipliée par 2 mensuellement. On constate également que les attaques des codes malicieux Linux arrivent différemment selon le type de machine. Les attaques sous Linux arrivent et s'installent de la façon suivante. Via des vulnérabilités système, via des scanners de port, via des codes arrivant en UUN code, puis recompilés localement avec le compilateur de Linux C, etc. Le lancement d'une application en tant qu'utilisateur peut se faire sous 3 formes sous Linux, un petit peu comme Vista. Soit l'utilisateur est root, ce qui est fortement déconseillé, soit l'utilisateur connaît le mot de passe de root et installe à volonté des applications dont il ne connaît pas forcément son intégrité, et là, le code malicieux aura tous les droits système. Soit l'utilisateur installe une application sous son profil. Il suffira au code malicieux de venir patcher le profil utilisateur. Le code malicieux pourra alors fonctionner dans l'environnement de cet utilisateur. Le code malicieux aura une taille évidemment bien plus importante, car il devra contenir certaines fonctions système lui permettant de fonctionner de façon indépendante. Le lancement du code malicieux se fera donc à chaque fois que l'utilisateur lancera sa session de travail. Aujourd'hui, les codes malicieux sous Linux ne sont plus des proof of the concept. Ils sont réellement des codes malicieux lancés sur le net. Depuis 2004, 37 signatures de ce type de code malicieux sont ajoutées mensuellement en moyenne dans les bases de détection antivirale. Les classifications épidémiologiques sont les suivantes. Les exploits des applications et du système d'exploitation arrivent en première position, ce qui n'est pas surprenant car via l'utilisation d'exploits, cela permet au code malicieux d'obtenir des élévations de droits et donc de passer en mode root. En deuxième position de cette classification, viennent les backdoors pour des ouvertures de ports en vue de communication avec des machines zombies. Les rootkits et les vers arrivent en troisième position, les sniffers réseau et les hacktools en quatrième, et enfin en cinquième position, les vers et les virus. L'utilisation d'un PC utilisateur fonctionnant sous Linux pourra se voir connecté sur un réseau ayant des postes et des serveurs Windows. Il faut savoir qu'un poste Linux aura peu de chances de se faire infecter par un code malicieux Windows, sauf si bien évidemment celui-ci est multiplateforme, mais c'est très rare, mais le poste Linux pourra servir de relais ou de stockage de ce malware. C'est la raison pour laquelle un poste de travail Linux, tout comme un poste de travail Windows, doit, pour une intégrité des données et du système la plus saine possible, doit être protégé par un antivirus capable d'éradiquer des codes malicieux Linux, mais également des codes malicieux Windows. L'utilisation d'un antivirus Linux doit rester la même par rapport à un antivirus Windows, à savoir une analyse en temps réel, une analyse du système global programmé chaque jour, et enfin, les mises à jour des bases de signature doivent évidemment être effectuées toutes les heures.
Ce podcast est la propriété de Marc Blanchard. Pour toute rediffusion, faire une demande sur le blog http://marc-blanchard.com.